Le premier texte que je voudrais analyser en introduction à cela est un texte du Rav Kook qui explique pourquoi l'identité juive, culturelle en particulier, s'était elle-même mise entre parenthèses pendant tout le temps de l'exil. Elle s'était mise entre parenthèses corollairement au fait que la nation juive avait, semble-t-il, après quelques siècles d'hésitation au début de l'Empire romain, décidé de se mettre entre parenthèses en tant qu'entité politique. Ce texte se trouve et dans le livre du Rav Kook qui s'appelle Oroth, à la page 14. Oroth, ça veut dire les lumières, à la page 14. Et je vais en lire quelques phrases simultanément en hébreu et en français. Le Rav dit ceci. Zavnu et ta politica olamit. Nous avons abandonné la politique mondiale, mais ones sheyesh bo ratzon pnimi, par une violence, mais pour laquelle nous avions un acquiescement intérieur. C'est-à-dire, on nous a fait violence, mais d'une certaine manière, dit le Rav, nous avons accepté qu'on nous fasse cette violence qui nous avait contraint à abandonner la scène politique pendant tout le temps de l'exil de Milan-Séno. Ad asher tavu et mevusheret, jusqu'à ce qu'arrive un temps heureux, sheyeh efshar lenahel mamlacha, où il sera possible de diriger une société politique, un royaume en hébreu, mamlacha, c'est pas malchut encore, mais ça veut dire une société politique, une cité. Belo rishra ou barbariot. Barbariot, vous comprenez, c'est la barbarie. Rishra, c'est la méchanceté. Dans le sens hébreu, c'est un sens très accusé. Jusqu'à ce que vienne le temps heureux où l'on pourra gérer la cité sans méchanceté et barbarie. Comprenez déjà très rapidement l'intention de cette première phrase. Ça veut dire, c'est délibérément que le peuple juif, qui a été contraint à abandonner l'histoire universelle, s'est réfugié dans une dimension de clandestinité parce qu'il a refusé la conception de la cité basée sur la barbarie. On pourrait multiplier le vocabulaire suivant les sociologues, suivant les historiens de la politique, mais l'idée est très claire. Dans un monde où on avait décidé de séparer la morale de la politique, le peuple d'Israël a dit, nous n'en sommes plus, on attend des temps meilleurs. Zehu hazman she'anu mekavim, c'est cela le temps que nous espérons, le temps où l'on pourra de nouveau gérer la cité au nom d'idéaux de moralité et non plus au nom d'une volonté de puissance. Et là j'ajouterai une remarque, et on ne peut pas ne pas remarquer que les voix juives qui se font de nouveau entendre à tous les niveaux, en poésie, en littérature, en philosophie, dans les sciences de la vie, d'une façon générale, sont marquées de cette exigence et de cette espérance, encore une fois, avec peut-être souvent, trop souvent, cette harmonique un peu exagérée de la clamation prophétique. Mouvan d'abord, il est évident, ajoute le Rav, shekedei le'agshimo anu tzrichim et orer bekochotenu kulam. Mais il est évident que pouvoir réaliser ce rêve d'une cité politique, et vous comprenez à quel point c'est autre chose que la vie de communauté que nous avons eue pendant 2000 ans, pas toujours dans des ghettos, mais même lorsqu'elle n'était pas dans des ghettos et que les ghettos étaient ouverts, c'était quand même des ghettos. Nous devons, dit le Rav, réaliser cela, nous servir de toutes nos tendances, de tout notre potentiel, c'est moi qui ajoute culturel, parce que d'abord c'est les écrits d'un rabbin, et pour expliquer que pendant tout ce temps-là, nous n'avons eu comme culture qu'une culture synagogale. C'est-à-dire que nous nous étions réfugiés dans la dimension communauté confessionnelle pour vivre cette parenthèse entre la nation hébraïque de l'Antiquité, détruite par la civilisation romaine, et la nation hébraïque des temps messianiques, espérée par la fidélité juive. Et que, bien évidemment, pour restaurer la vie de la cité avec toutes ses dimensions culturelles, il faut donc faire appel à toutes les forces de l'âme hébraïque, et pas seulement à son génie religieux, si vous voulez, mais le mot n'est pas tellement approprié, disons confessionnel. crois que le terme sociologique le plus approprié serait synagogal aujourd'hui. L'ishtamesh becholaim tsaraim sheazman mevi est de nous servir de tous les moyens que le temps, que l'époque apporte, amène. Nous dirions les médias aujourd'hui. Hakol yad el boré kol olamim menaelet. Parce que tout est géré, dirigé par la main du Créateur de tous les mondes. Ce que le Rav veut dire ici est aussi très clair. Toutes les forces du génie humain sont sous le regard de Dieu et toutes doivent collaborer à la restauration de la cité sainte et pas seulement les conduites du sacré confessionnel. Vous comprenez pourquoi il y a là un problème de remise au point des objectifs culturels de la nation hébraïque qui demande une mutation à tous les niveaux et dans les contenus et dans les formes. Mon sentiment, mon expérience, c'est que cela doit se faire préalablement en hébreu parce que les autres véhicules culturels inévitablement véhiculent d'autres approches de la vie, d'autres perceptions de l'histoire et qui le plus souvent étaient en conflit avec l'âme hébraïque. Aval, et c'est là que je crois est la phrase la plus centrale, Aval ha'ichur hu haya ichur ukhra. Mais ce retard était un retard imposé nécessairement imposé, par la même nuance. Bahala nafshimi, notre âme était prise d'horreur. Bahataim ha'ayumim, à cause des fautes étaient terrifiantes. Shel anhagat mamlacha be'et ra'a, que sont les forces d'une cité politique dans un temps de mal moral. Comment dire ça en français mieux? Be'et ra'a, dans un temps d'immoralité. Veine yazman, mais voici, dit le Rav, le temps arrive. Caro meo, très proche. Ce texte a été édité il y a 50 ans. Très proche. Arolam, itbassem, le monde, se itbassem. Devient parfumé, comme on dit ça.
Enchanté.
Devient enchanté. Vanunuchal kvar leachin atzmenu. Et nous pouvons déjà nous préparer. Kilanu kvar, car à nous, il parle des Juifs. Efchariye, il sera possible, lenahel mamlachatenu, de gérer notre cité politique, alias dotato, sur les principes du bien, à Chorma, de la sagesse, à Yosher, de la droiture. Veahara, à Elokit, à Broura. Et l'éclairage divin, épuré, clair, pas, vous m'excuserez l'expression, c'est la seule qui m'a bien à l'esprit, pas de cette lumière religieuse qui passe à travers des vitraux de cathédrale, même lorsque les vitraux de cathédrale sont dans des synagogues. C'est-à-dire d'une lumière divine, pure, et non pas, comment dire ça en français, et non pas tamisée par, pas par le tamis, mais en fait ça serait aussi, tamisée par, je dirais, la déviation confessionnelle. Je pense que c'est pas nécessaire de lire plus loin, ça va dans le même sens. Et on ne peut pas ne pas remarquer cela. C'est que la conscience du peuple juif a commencé de nouveau à entrevoir la possibilité de la restauration de la nation hébraïque au temps où en Occident, ce même Occident, on a commencé à rêver d'une cité politique qui ne serait plus basée sur les projets de puissance, mais sur un projet moral, et ça avait commencé en France, au temps de la Révolution française. Que ceci ait été pensé dans les minorités juives de l'Europe, qui étaient l'endroit du monde où passait l'histoire politique de l'humanité, au moment où, et dans la civilisation romaine pour la première fois, et peu importe ce que dans la réalité le rêve de la Révolution française était devenu, liberté, égalité, fraternité, mais pour la première fois, on a pu commencer à penser en dehors des cabinets philosophiques de spécialistes, au niveau des hommes politiques, une cité politique basée sur la moralité. C'est là que la nation juive a commencé à entrevoir, comme le dit le Rav, la possibilité de la restauration de la nation hébraïque, et c'est très important d'y réfléchir. Qu'ensuite, le rêve, entrant dans la réalité, rencontre les difficultés de l'engendrement, de la hakshama en hébreu, de la matérialisation. Et si nous n'étions pas gênés par les consonances chrétiennes du terme, j'aurais dit de l'incarnation, parce que ça se passe dans la chair, mais en réalité, pas mystiquement, eh bien, en tout cas de la hakshama, C'est encore un autre problème. Mais que pour la première fois dans l'histoire, le peuple juif a l'indice national, et pas seulement à l'indice de tel ou tel penseur, de tel ou tel rabbin, de tel ou tel guide, prennent acte que, comme dit le Rav, le temps est très proche où on pourra enfin penser à une cité politique qui ne serait plus la cité romaine. Alors, ça c'est important d'y réfléchir, et je crois que vous comprenez par là pourquoi la société israélienne, quels que soient les aléas de la politique, garde pour la France quelque chose de spécial. Parce que la France, c'était d'abord la Révolution française, et c'est ce rêve-là qui a fait rêver les sionistes. Et c'est grâce à la Révolution française, très paradoxalement, que finalement Israël existe. J'ai raccourci le raisonnement, mais vous comprenez quel était le feedback, si j'ose dire, en tchécoslovaque. En tout cas, voici la première remarque. Et c'est pourquoi, sur ce premier point, je crois que nous sommes interpellés au niveau de l'avenir de notre culture par une problématique qui me semble très simple à expliquer, mais très dangereuse à vivre. Ce que nous avons à éviter, c'est que ne s'installe le conflit entre deux cultures juives, une qui serait nationale et l'autre qui serait cosmopolite. Voilà la première remarque, si vous voulez, que je lance dans la discussion. Là, le deuxième texte que je voudrais vous lire, et là vraiment je regrette que Michel Prince n'ait pas pu ce soir être avec nous, concerne la dimension plus traditionnelle de la culture juive. Je n'ose pas dire religieuse, parce que là aussi, c'est une problématique très complexe, mais disons traditionnelle, qui se formule dans la messianité. Et il n'y a pas de doute qu'il y a une spécificité de la culture messianique, de la messianité au niveau culturel propre au peuple juif. Nous en étudions quelques-uns des problèmes dans le séminaire du matin. Et il n'y a pas de doute d'ailleurs que depuis que les ghettos culturels se sont ouverts, les nations, les non-juifs, sont à l'écoute et parfois avec avidité de ce que les juifs ont à dire de leur propre messianité. Et il faut savoir que c'est différent de ce que les chrétiens ont dit au nom de leur propre lecture de la Bible, ou parfois au nom d'un vocabulaire un peu ambigu, un peu parfois insidieux, qu'on appelle le vocabulaire judéo-chrétien. Il n'y a pas de discours judéo-chrétien. Il y a un discours juif, il y a un discours chrétien. Et d'autre part, il y a le problème de la convivialité entre les juifs et les chrétiens. Judéo-chrétien, ça n'existe pas. Je crois que Spencer l'avait déjà un peu indiqué, mais j'ai eu la surprise au dernier séminaire de recevoir une citation de Rousseau. Je crois que c'est dans le livre 4. Malheureusement, je ne l'ai pas prise avec moi ce soir. Je vous dirai un peu de mémoire ce qu'il y a dans cette citation. Rousseau ironise sur les dialogues judéo-chrétiens de son époque en disant « Attendez que les juifs aient leur état. Attendez que les juifs aient leurs universités. Alors seulement vous saurez ce que les juifs pensent de la messianité. Tant qu'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils pensent vraiment. » C'est Rousseau qui a écrit ça. Et là, il y a eu une habitude prise par la conscience juive de l'exil de substituer l'expression « l'attente du Messie » à l'espérance de la restauration nationale. Il y a eu une substitution de catégorie, si j'ose dire. Alors, je vais vous lire un peu plus lentement, un peu plus attentivement, un texte du Talmud, qui est un texte de halakha, c'est-à-dire de législation rabbinique, que je ne vais pas du tout introduire, ce serait dommage, et que je commence simplement à vous lire en l'expliquant. Il y a une discussion dans la page d'Alephet 4b du traité de Brachot concernant l'ordre de la prière du soir. Et vous savez, je schématise beaucoup, mais vous savez que dans la prière du soir et dans la prière du matin, il y a deux rites qui sont liés. Parmi d'autres d'ailleurs, mais deux rites fondamentaux, deux rites principaux. Le rite de la proclamation de l'unité de Dieu, qu'on appelle le Kriyat Shema, la lecture du Shema, Shema étant le premier mot du verset qui proclame l'unité de Dieu. Et d'autre part, le rite de la prière, à proprement dit, qu'on appelle la Tfila. Tant le soir que le matin, on relit ces deux rites dès qu'on a fini le premier, c'est-à-dire la proclamation d'unité de Dieu, tout de suite on commence la prière. À propos du problème de la jonction de ces deux rites, il y a donc une discussion dans le Talmud dont je vais isoler quelques-uns des facteurs qui concernent notre problème. D'abord, pour l'introduire, tant que le temple existait, ces deux rites étaient complètement indépendants l'un de l'autre. Ils avaient leur liturgie propre, ils avaient leur horaire propre, horaire qui se recoupe, mais qui ne coïncide pas forcément. Le matin, on a le temps de dire le Kriyat Shema de telle heure à telle heure, dire la prière du matin de telle heure à telle heure. Ça se recoupe un peu, mais ça ne coïncide pas totalement. De même le soir. Tant que le temple existait, l'intention de la prière, à qui je prie, devant qui je prie, devant qui va l'intention de ma prière, c'est un problème simple. La réponse était ni théologique, ni philosophique. Elle était une réponse au niveau de l'existence. À qui le grand prêtre de Jérusalem rend le culte qui rend. C'est lui qui sait de qui, devant qui je suis. Et, si vous voulez, la conscience religieuse de la nation, finalement, s'exprimait au niveau, de proche en proche, au niveau du grand prêtre du temple de Jérusalem. Ce qui restait de cela, c'est que pour prier, on se tourne vers la direction où se trouvait le temple de Jérusalem. Lorsque le temple a été détruit, il y a eu un désarroi absolu. Et on a étudié d'ailleurs longtemps, dit le Talmud, par quoi remplacer ce symbole, si vous voulez, de l'unité de la conscience d'Israël. La réponse qui a été donnée n'était pas du tout une réponse théologique ou idéologique, qui aurait non pas rassemblé, mais divisé les consciences juives. La réponse qui a été donnée a été au niveau de l'histoire nationale, la référence à un événement qui pouvait faire l'unanimité, de la société d'Israël, et qui était l'événement fondateur de la nation d'Israël, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Alors qu'il peut y avoir controverse à tous les niveaux, tant théologique que philosophique, que sociologique, que idéologique, que politique, sur l'identité qui est juive, sur le problème d'identité qui est juive, sur le problème théologique corollaire, comment définir le Dieu d'Israël, il y avait a priori unanimité et sociologique, et religieuse, et culturelle, etc., sur l'événement fondateur de la nation juive hébraïque, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi on a relié ces deux mitzvot, ces deux rites. La dernière formule de la lecture du Kriyat Shema, c'est le rappel de la sortie d'Égypte, et où Dieu est défini comme Gaal Israël, celui qui nous a délivrés de l'exil d'Égypte, et immédiatement après, on commence la prière. Or, le matin, la prière du matin, il n'y a pas de problème. Parce que dans la cohérence du temps liturgique, du temps spirituel, au matin, nous sommes après l'événement de la sortie d'Égypte. Dans la correspondance entre l'exil et la nuit, la libération et le jour, et le matin, nous sommes sortis de la nuit. Nous pouvons nous référer à l'expérience que la délivrance a eu lieu. Nous nous référons à un événement qui est connu comme étant de l'ordre de l'expérience, puisque de l'ordre du passé. Nous savons que c'est arrivé, que Dieu intervient pour mettre fin à l'exil. Tandis que, le soir, la délivrance n'a pas encore eu lieu, puisque très précisément, comme vous le savez, c'est à minuit que la sortie d'Égypte a eu lieu. Donc, dans tout le temps qui va du soir jusqu'à minuit, il y a perplexité. Est-ce que j'ai le droit de me baser sur un événement qui n'a pas encore eu lieu pour fonder le droit à la prière ? On devrait disserter là-dessus pendant des heures, parce que j'ai indiqué très brièvement énormément de catégories qui ne font pas partie de la culture occidentale, mais qu'il faudrait récupérer dans une analyse hébraïque. Enfin, voilà en tout cas les données de base de cette discussion qui va s'ouvrir maintenant dans le Talmud, et qui est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Lévi. D'abord l'opinion de Rabbi Yoshua ben Lévi qui dit « Les prières, les trois prières de la journée, sont au milieu des deux Kriyat Shema. L'ordre des liturgies pour lui, c'est d'abord le Kriyat Shema du matin, ensuite la Tfila du matin, ensuite la Tfila de Mincha de l'après-midi, ensuite la Tfila du soir, et ensuite seulement le Kriyat Shema du soir. Et simplement vous retenez que cet ordre, qui est enseigné par Rabbi Yoshua ben Lévi, n'est pas retenu par la Halakha, c'est-à-dire par la législation rabbinique. Alors que Rabbi Yochanan, lui, demande l'ordre suivant. De même que le matin, on dit d'abord le Kriyat Shema et ensuite seulement la Tfila. De même le soir, on dit d'abord le Kriyat Shema et ensuite la Tfila. Parce qu'il dit, le soir aussi, il faut se baser sur l'expérience de la délivrance, bien qu'elle n'ait pas encore eu lieu, mais qu'elle commence. Avec une fine remarque du Brit Tzadik qui nous dit, et c'est pourquoi, le soir, on a le droit de dire le Kriyat Shema que lorsqu'on voit les étoiles apparaître, que même dans la nuit, on voit de la lumière. Alors on peut dire le Kriyat Shema. Et je reviens donc à cette controverse. La Gemara, le Talmud, nous donne un exemple extraordinairement fort de la controverse talmudique. Elle cite tout de suite le principe de la discussion talmudique en posant la question, qu'est-ce qui différencie ces deux opinions? Et vous retenez d'ailleurs que la halakha, la législation rabbinique, a choisi pour l'opinion de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que le soir aussi, on se base sur la Géoula d'Égypte, bien qu'elle n'aura la porte directe à la citation du verset. Quel verset? Elle va choisir le même verset pour les deux opinions. Le verset qui nous dit, Vedi barta bam, peshitecha vevetecha, ublertecha baderech, beshorpecha, kumecha. Je ne traduis que ce qui est nécessaire pour nous, et tu parleras de ces paroles, l'unité de Dieu, en te couchant et en te levant. Beshorpecha, kumecha. Et la Gemara explique, selon Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une analogie à faire entre le matin, le lever, et le soir, le coucher. De même que le matin, le fait de dire le Kriyat Shema est immédiatement après le fait de s'être levé du lit, de même le soir, le fait de dire le Kriyat Shema doit être immédiatement avant de se coucher dans le lit. C'est une analogie formelle entre les deux termes, celui du matin et celui du soir. Rabbi Yochanan répondra, dit la Gemara, avec le même verset. De même que le matin, on dit d'abord le Kriyat Shema et après la Tfila, et donc on se base pour prier sur la référence à la sortie d'Égypte. De même le soir, on dira d'abord le Kriyat Shema et ensuite la Tfila, c'est-à-dire on se basera aussi le soir sur la délivrance d'Égypte pour dire la prière. Deuxième dimension, le raisonnement. Non, j'ai commencé par le raisonnement. C'était un peu le verset, donc deuxième dimension, le raisonnement. D'après le raisonnement, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, étant donné que la délivrance n'était évidente qu'au matin, elle n'est pas évidente le soir. Donc on ne peut pas se baser sur la référence de la délivrance le soir. Rabbi Yochanan répond, étant donné que la délivrance n'est évidente qu'au matin et qu'elle n'est pas tellement évidente le soir, bien qu'elle ne soit pas tellement évidente le soir, elle est quand même délivrante. Ce qui signifie qu'on ne peut pas trancher entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. On ne peut pas trancher, ni par le raisonnement, c'est-à-dire l'idéologie, ni par l'érudition du recours au texte. C'est ce que je voulais surtout expliquer. Or, la halakha est quand même selon Rabbi Yochanan. Ça veut dire quoi? En tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune trace dans toute la littérature rabbinique pourquoi la tradition a tranché pour Rabbi Yochanan et pas pour Rabbi Yoshua ben Levi, alors que la Gemara elle-même nous explique qu'on ne peut pas trancher, qu'on peut poursuivre la discussion par le raisonnement jusqu'à la fin des temps, et après. Et on peut poursuivre la direction, la discussion, la référence à l'érudition jusqu'à la fin des temps. On a tranché par un acte de foi. J'ai cité cela pour expliquer qu'à un certain niveau, il y a une certaine inutilité, impossibilité de poursuivre trop la controverse. C'est de nouveau l'engagement existentiel qui reprend ses droits. Et c'est pourquoi je crois, et là j'arrive à la troisième remarque qui sera ma conclusion, je crois aussi qu'il y a un peu un caractère néfaste dans la reconduction sempiternelle des controverses qui n'ont pas de point final, ni par le raisonnement, ni par l'érudition, ni par l'idéologie, ni par les sources de la piété. Et qu'il faut rendre ses droits à l'engagement existentiel. Ce qui m'a beaucoup frappé dans une remarque corollaire à la remarque du début, dans cette espèce de réexplosion de la littérature, disons, de la culture en général, juive, après la dernière guerre mondiale, après donc Auschwitz et Israël, c'est l'état de chaos dans lequel se trouve l'ensemble des opinions. Je veux dire, si on prend connaissance de tout cet ensemble comme ensemble, la première impression qui apparaît, c'est la systématisation des divergences. C'est surtout cela qui apparaît. Énormément de publications de tout ordre, des livres, des thèses, des essais, des articles, des périodiques, des journaux, des recensions, tout ce que c'est. Mais lorsqu'on prend conscience du contenu de l'ensemble, très riche, très bouillonnant, la première impression qui apparaît, c'est, j'ai dit tout à l'heure, la systématisation des divergences. Personne n'est d'accord avec personne et chacun tient à le faire savoir. Et, or, déjà, apparaît une nouvelle génération, disons celle de nos enfants. Et si je pouvais me faire leur porte-parole, je crois que c'est ce qu'ils réclameraient de nous, c'est qu'on prenne une fois le temps de vider nos querelles, parce que nous leur transmettons une espèce de passe immédiat chaotique. Or, les vrais problèmes qu'il y a derrière le problème de la culture sont des problèmes d'identité et pas des problèmes d'idéologie. Parce qu'en fin de compte, les idées, c'est des idées, tandis que l'identité, c'est l'identité. Je pense que j'ai été clair en français. Je crois qu'il y a là, de la part de notre génération, d'une certaine manière, une sorte de réaction de défense. Au fond, nous livrons un combat de controverse au second degré. Nous avons délégué à l'idéologie le vrai problème qui était un problème d'identité. Pourquoi ? Parce qu'après tout, des querelles idéologiques, c'est pas si grave. Mais que si nous affrontions, si nous avions le courage d'affronter nos querelles au niveau de l'identité, le risque serait les ruptures d'identité. Pour ça, d'une certaine manière, c'est un peu une réaction de défense. Mais je crois pas que ça puisse tromper longtemps les enfants d'Israël, je veux dire, enfin, les bénis d'Israël, les enfants, là, la génération qui monte. Nous oublions, nous, de notre génération, que la génération actuelle, et ça va vite, est née après Auschwitz et Israël. Elle n'a pas eu l'expérience de ces deux chocs-là et de ce qu'ils représentent. Elle n'a pas eu l'expérience de la mutation. Peut-être, pour reprendre un peu l'aspect d'une des remarques de tout à l'heure, peut-être que c'est une loi de l'histoire. Peut-être que lorsqu'il y a recommencement, il y a d'une certaine manière une instance de chaos, de la même manière qu'au commencement, en premier lieu, il y a le chaos. C'est possible. Mais je pense que nous sommes déjà arrivés à un moment assez délicat, névralgique, en tout cas, de notre histoire culturelle contemporaine, c'est que nous avons besoin d'une cohérence un peu plus évidente dans ce chaos tumultueux, riche, mais chaotique. Peut-être donc que c'est une réaction de défense et que là, c'est positif, d'une certaine manière, mais en tout cas, ça dévoile l'absence dans le peuple juif de ce que j'appellerais les porteurs d'unité. Dans les temps de la Bible, les porteurs d'unité, c'était une tribu parmi les autres, qui était la tribu de Lévi. Et au fond, ma question, c'est où se trouve aujourd'hui la tribu de Lévi ? La tribu de Lévi était celle qui portait l'unité, l'unanime de la communauté. D'une certaine manière, ils avaient pris sur eux la destinée de solitude pour que les autres soient accompagnés. Et effectivement, en hébreu, Lévi, ça veut dire l'accompagnateur. Alors tout se passe comme si la tribu de Lévi a disparu. Je crois que c'est une question que je pose. Je crois que dans la... et que peut-être c'est lié. Si nous n'osons pas poser le problème au niveau de l'identité, et si nous laissons à l'idéologie la libye de camouflage, de toutes les négations, mais dans la libye idéologique, c'est peut-être parce que nous ne disposons pas encore de la tribu de Lévi. Dans le langage de la société française, on dirait peut-être qu'ils n'ont pas disparu, ils sont rentrés dans les ordres. Mais je crois que dans notre langage, il faudrait dire, avec un accent plus grave, ils ont disparu, ils sont rentrés dans l'ordre, et c'est très différent. Ils font comme tout le monde. Chacun d'entre eux a une opinion personnelle, et la dit de façon subjective, et participe au chaos des tensions de divergence. Et ils sont rentrés dans l'ordre. Et je crois que c'est cela, au fond, que nous attendons. Dans une des réflexions que j'ai eues à ce sujet, je me suis dit que peut-être, et c'est un hommage que je voudrais rendre aux poètes juifs, que peut-être, de notre temps, la tribu de Lévi, c'est plus comme ça aurait dû être. Les quatre communautaires, je sais pas, les gens font partie, donc c'est négatif pour personne. Les professeurs, les prêtres, les rabbins, etc. Donc, que c'est peut-être les poètes. c'est-à-dire ceux qui rêvent pour les enfants. Et je me demande si effectivement les noms qui resteront de notre temps ne seront pas plus centralement ceux des poètes que ceux des autres. En tout cas, s'ils sont aussi autre chose que poètes, c'est parce qu'ils étaient aussi poètes. Il y a des philosophes poètes, il y a des rabbins poètes, il y a des... Mais je crois que ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des poètes.
Je me trouve dans une situation qui me rappelle mon enfance. J'avais un père qui est resté tout ce monde, qui était rabbin, et j'avais beaucoup de questions à lui poser quand j'étais enfant. Mes questions étaient des questions yom-yom, comme on dit, quotidiennes. C'était passé ceci, c'était passé cela, je comprenais pas ceci, je comprenais pas cela, je voulais ceci ou je voulais cela. Ben, j'allais chez mon père. Et à chaque fois, il me disait oui, puis il m'amenait vers un texte du Chumash, ou un texte du Talmud, ou un autre texte, mais toujours un texte, qui n'avait, semble-t-il, aucun rapport avec ma question. Et il me l'expliquait à sa manière. Et je m'en allais assez intéressé par le texte, ne trouvant d'ailleurs pas la réponse à ma question. Et j'ai toujours cru que c'était l'instituteur du coin qui allait me répondre à la question que mon père ne m'avait pas expliquée. J'ai mis 50 ans à m'apercevoir que l'instituteur ne m'a jamais rien expliqué du tout, et que mon père, en ayant l'air de ne pas m'expliquer, c'est lui qui m'avait expliqué les choses. Je n'ai pas eu le temps de lui dire parce qu'il est mort. Alors je souhaite à Manitou de vivre jusqu'à 120 ans, mais je me sens très embarrassé ce soir parce que j'avais un exposé à faire, une discussion à avoir, et je suis rentré dans un autre monde, dans un monde qui n'est pas celui de mon exposé, où la question semble très très loin de ce que nous devions dire, mais c'est comme quelqu'un de nouveau, et je l'ai dit tout à l'heure, Manitou c'est un Baal Shem Tov contemporain, qui raconte, qui parle, qui raconte des légendes, et très souvent même chez Baal Shem Tov on ne comprenait pas. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Boubert raconte, et quand on lit Boubert de nouveau on ne comprend pas, parce qu'on se demande où est le rapport entre ce que dit Boubert et ce que disait le Baal Shem Tov, et quel sens est-ce que ça a. Et il faut beaucoup de temps pour le comprendre, mais quand on l'a compris, cette fois-ci on se rend compte qu'on est dans un autre domaine. Alors, je ne sais plus où je dois placer ma controverse, à savoir quels sont les rapports entre la diaspora et Israël, l'État d'Israël et la diaspora. Elles sont très loin, peut-être très proches de la halakha, du texte du Rav Kook qui a expliqué Manitou aussi brillamment et avec tant de finesse. Mais enfin, moi je suis obligé de nouveau grossièrement de me retrouver dans mon enfance et de poser les questions terre à terre d'un Israélien vivant en Israël, ayant choisi cette voie, et essayant de voir quelle est la place de la diaspora, quelle est la place de cette Gola, de cette diaspora, quelle est la place d'Israël, quels sont ses rapports, et je m'excuse donc pour Manitou d'entrer du rôle du Kodesh dans le rôle. Il est en effet deux points de vue, et c'est de ça que je vais donc traiter maintenant. Il est deux points de vue pour ce qui est de l'Aliya. L'un, c'est celui des Juifs, il y en a beaucoup dans cette salle, qui se préparent à partir, il y en a beaucoup en Israël, qui sont des Juifs très pratiquants, et qui sont venus vivre Dieu, vivre la vie de Dieu, vivre, faire l'avoda, le travail saint, être des Kohanim, comme Tiouliam Kohanim, où c'est pour moi un peuple de prêtres, et qui veulent le faire. J'ai rencontré, quand mon fils a fait sa bar mitzvah, nous l'avons fait comme beaucoup de Juifs au mur de Jérusalem, et il y avait là un Juif qui m'a dit, bah, écoutez, moi je vais lui apprendre à mettre cette filine. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est ça que je fais. Et il faisait rien d'autre. Il a quitté New York, il était là, il vit au mur, c'est vrai, comme le raconte disait dans ses livres. Il vit là, et il fait ça. Il y a des Juifs qui vivent comme ça, c'est le chemin de Jérusalem, certainement pas Dieu. Et il y a donc des Juifs qui vivent en Israël, qui vivent comme ça, qui se sentent déjà délivrés, et qui pensent que l'ère messianique a commencé. Et il y a même des gens qui pensent que l'ère messianique non seulement a commencé, mais que nous sommes dedans et que bah, bientôt des grands événements se produisent. Et je pense que Manitou n'est pas loin d'être un de ceux-là, à sa manière, parce qu'il n'aime pas qu'on le traite de rabbin, mais il est, qu'il le veuille ou non, un rabbin très particulier, comme le Baal Shem Tov était un rabbin très particulier, mais il est. Mais il est une autre catégorie d'hommes qui vivent en Israël, et on ne peut pas faire fi d'eux, car ils ont créé Israël. Ils y vivent depuis longtemps, depuis avant la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'a pas commencé en 1947 et 48, au moment de la guerre d'indépendance. Il a commencé au début de l'histoire, mais il a commencé en fait en 80, l'État d'Israël a commencé en 80, 82, avec les premiers à l'IOT déjà de cette époque-là, avec les premiers pour le Bétillon. Et ces juifs-là ont pensé qu'il fallait en terminer avec la diaspora. C'est ce que je voulais exposer ce soir. J'ai cherché un juif qui exposera, comme le dit Manitou, que la diaspora, non seulement a le droit de vivre, mais qu'elle a été à sa place. J'ai téléphoné à une dizaine de penseurs ici à Paris et ils ont tous refusé de venir parler. Les uns parce qu'ils ne le voulaient pas, les autres parce qu'ils ne le pensaient pas, quelques-uns qui n'avaient pas le temps. En tout cas, aucun n'est venu. Alors, s'il en est un dans la salle tout à l'heure, il pourra l'expliquer, il sera bienvenu, toutes les pensées doivent être exprimées. Mais je vais moi expliquer donc une pensée, la pensée sociologique, historique, philosophique, je crois qu'en tout cas, ce qui groupe et les juifs pratiquants en Israël, je crois que là-dessus, et les juifs moins pratiquants, je ne sais pas religieux ou pas religieux, qui va savoir qui croit en Dieu, qui croit pas en Dieu, ce sont des questions que chacun doit régler avec le bon Dieu lui-même, et que c'est certainement pas l'autre qui peut régler, et ça n'existe même pas ça chez lui de dire que tu ne crois pas, c'est une question qui ne se pose pas. Alors en tout cas, les juifs qui ne pratiquent pas, les juifs qui pratiquent, ils sont tous d'accord pour une chose, en tout cas en Israël, c'est que la diaspora est mauvaise. Je m'excuse à l'avance de chaque mot que je dirai, mais je suis obligé d'exposer un point de vue. Je peux simplement ne pas l'exposer, mais si j'expose, je sais bien que je blesserai beaucoup de gens, mais je suis obligé de le faire parce que les droits de la vérité, dans un exposé, on leur place. Je ne le fais pas du tout par polémique. Je le fais simplement pour que vous sachiez ce que pensent les juifs israéliens, quels qu'ils soient pratiquants ou qu'ils ne soient pas, de la diaspora. Eh bien, ils disent d'abord qu'il faut justement une alia, et qu'il faut venir en Israël, c'est remonter. Quand il faut monter, c'est qu'on est en bas. Ils pensent que les juifs de la diaspora sont tout à fait en bas. Ce sont des gens qui se trouvent dans le bas, dans le noir, dans les ténèbres, dans l'erreur à tout point de vue, et qu'il faut qu'ils aillent vers la lumière, et que cette lumière, elle est en Israël. Ils pensent que cet alia, c'est un passage de la maladie à la santé, de la dégénérescence à l'équilibre, et à l'équilibre physique, à l'équilibre mental, et c'est une marche de la dépendance vers l'indépendance, de la soumission vers la souveraineté. Et quand on parle à un juif israélien, des juifs de l'étranger, quel qu'il soit, quel argent qu'il ait donné, quoi qu'il ait fait pour la Malbite, quoi qu'il ait planté pour le Kayam Kayamet, chaque Israélien que je connais moi, en tout cas je n'ai pas encore rencontré beaucoup d'autres, écoute avec un peu de condescendance et pense, même s'il a beaucoup d'amitié, qu'il serait temps que ces juifs-là arrêtent de donner de l'argent et viennent vivre en Israël. Et c'est ce que Ben Gurion avait exprimé un jour, en allant en Israël, et en disant aux Juifs d'Israël, en Amérique, arrêtez, donnez votre argent, vous savez bien, mais ce n'est pas votre argent que je suis venu chercher, ce sont vos fils. Il faut que vos fils viennent. Cette idéologie sioniste a créé l'État d'Israël, et elle n'est pas née qu'en Europe de l'Est. On a longtemps dit que c'était une idéologie qui était née seulement en Pologne et en Russie, où les Juifs n'étaient pas libres, ces pays qui avaient 100 ans de retard sur la Révolution française dont parlait Manitou. Cette philosophie est née également en Occident, parce qu'un homme comme Theodor Herzl n'a jamais vécu en Russie et en Pologne, il a vécu en Allemagne, en Autriche et à Paris, et même un homme comme André Spire, par exemple, qui était sioniste, c'est un sioniste qui n'est pas monté, mais en tout cas n'a pas vécu là-bas non plus. Eh bien, je crois qu'il faut revenir donc à leurs idées. Qu'est-ce qu'ils voulaient signifier par là? Eh bien, ils signifiaient, les juifs religieux pensaient à une chose. Ils pensaient ce que pense mon père, et ce que pensait mon frère, ce que pense mon père. J'ai un frère rabbin, il a encore vivant jusqu'à 120 ans, je l'espère. Ils pensent tout simplement, comme pense un juif religieux, que tout ce que fait un goy, c'est bon, il ne faut pas toucher. Faut pas toucher, faut pas s'habiller comme lui, faut pas manger à sa table, faut pas boire son vin, c'est une avéra, faut surtout pas se marier avec sa fille, alors que ça veut dire vivre parmi des gens qu'on ne doit pas toucher, dont il ne faut pas se marier avec les filles, on peut pas manger à leur table. Alors ce sont vraiment des gens étrangers, même si le juif peut prétendre qu'il est juif américain, qu'il est juif français, qu'il est citoyen, il peut sortir 17 cartes d'identité, n'empêche que s'il est pratiquant, s'il est un juif authentique, c'est une avéra, il ne peut pas vivre dans la table de l'autre. Et chaque juif sait, chaque père et chaque mère, quelque libéral, d'ailleurs on est toujours libéral jusqu'au moment où le fils amène une Goya à la maison, à ce moment-là on arrête d'être libéral, on commence à être ennuyé, le problème commence. Chaque juif sait où est le problème, et ce problème est tellement grave que tous nos rabbins, et toute la LIA, et toutes les pratiques, de tous côtés, on a fait la critique de cette assimilation qui ravage le judaïsme et qui le décime. Et qui le décime aussi bien en Amérique que dans tous les pays d'Europe, que dans tous les pays où les juifs se trouvent, sauf en Israël. Eh bien, quel était ce point de vue? C'était un point de vue. C'était le point de vue religieux que d'abord, un juif pratiquant ne peut pas vivre à côté de Goïm. On peut avoir d'excellentes relations avec les Goïm en étant juif. En disant, je ne dis pas, c'est ce que font, par exemple, des juifs pratiquants des livres de mer dans le 19e arrondissement à Paris, c'est ce que font un certain nombre de juifs à New York, etc. Mais en vivant tout à fait à part, des îlots, des ghettos à part, ne vivant pas avec les autres. Et puis, il y a l'autre point de vue. Un point de vue de gens qui étaient libéraux, qui pensaient à la Haskala, apprendre le russe, devenir des russes. Prenons un exemple, Pinsker, c'est un psychiatre. Pour faire de la psychiatrie, il faut aller à l'université pour savoir le russe. Et puis il ne suffit pas de savoir le russe, il faut fréquenter des professeurs et comprendre des gens, et puis Pinsker le pensait. Jusqu'en 1882, Pinsker a toujours pensé que ce qu'il fallait, c'était devenir un juif russe moderne, c'est-à-dire un juif assimilé complètement. Jusqu'au jour où il y a eu un pogrom. Et malheureusement, il a fallu un pogrom pour que Pinsker écrive l'auto-émancipation, c'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas vivre parmi les goïms, il n'y a qu'une seule voie. Ce n'est pas la voie d'être un juif russe, on ne sera jamais un russe, Il avait déjà prévu qu'il y aurait des problèmes en Russie, à l'époque, en 1881, mais il faut aller en Israël et puis créer un État d'Israël. Et il a fait une analyse de l'antisémitisme, qui est essentielle, qui est importante, et qui est toujours aussi vraie, semble-t-il. À savoir que l'antisémitisme est autour de nous, qu'il ne sert à rien de faire des ligues contre l'antisémitisme, il faut les faire, mais ça ne sert rigoureusement à rien. Les ligues de l'antisémitisme n'ont jamais arrêté les antisémites, elles ont arrêté les non-antisémites, mais pas les antisémites. Et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne changera pas la haine du juif qui provient de très loin, on a analysé les causes, que ce soit les chrétiens, les catholiques qui ont poussé à cela par leur catéchisme, que ce soit l'idée de Pinsker que c'est une maladie psychiatrique incurable, la peur du revenant, que ce soit la concurrence moderne, que ce soit... mille autres raisons, en tout cas l'antisémitisme semble pour les sionistes quelque chose d'essentiel, de basé et de définitif. Et Pinsker a dit, il n'y a plus qu'une seule, la galoute doit disparaître, il ne faut pas laisser un juif en Russie, il faut aller dans l'État d'Israël. Gordon, qui est un deuxième penseur sioniste, a prétendu lui aussi, a affirmé qu'il fallait quitter quel que soit le travail qu'on fasse. Il faut, quel que soit l'endroit où on est, il faut aller vivre dans la terre d'Israël, se mettre debout et se baisser vers la terre, et être en contact avec cette terre, et que c'est seulement là que l'homme retrouvera sa dignité. Borokhov a pensé qu'il fallait tout simplement que les Juifs deviennent des agriculteurs et travaillent, et ne soient pas des intellectuels, des Luftmenschen ou des gens de métiers intermédiaires. Et Nordau a pensé qu'il fallait que les Juifs aille en Israël pour devenir indépendant, sinon il dégénérerait. Et Herzl a pensé la même chose, et sans parler de Jabotinsky, de Weizmann et de Ben-Gurion. Et tous pourtant, tous ces penseurs, ont pensé la même chose, à savoir que si les Israéliens vivent en Israël, ils ne peuvent pas être un peuple comme tout le monde. Ils seront Amzgoula, un peuple à part, un peuple différent des autres. Alors, si j'analyse...